Bienvenue dans un nouvel épisode du MC Talks. C'est un véritable coup de cœur que j'ai eu lors de la conversation que vous êtes sur le point d'écouter. Kevin est un chanteur, compositeur français expatrié en Angleterre. Alors qu'il venait de rater les auditions pour The Voice, il rentre à Londres et continue sa tournée des bars pour faire connaître son talent. Pourtant un soir, lors d'un open mic, il se voit refuser l'autorisation de jouer sa musique. Vous allez découvrir aujourd'hui comment ce petit événement anodin va le propulser en finale de X Factor. Alors avant de vous faire écouter ma conversation avec Kevin, je voulais vous faire passer un petit message. J'ai créé ce podcast avec le rêve de pouvoir offrir à chacun l'opportunité de ne plus vivre en marge de sa vie. J'ai créé ce podcast avec le rêve d'offrir un petit peu d'audace à tous ceux qui m'écoutent. En fait, j'ai le rêve que nous soyons heureux toute la semaine et non pas uniquement le vendredi après une semaine de boulot. Alors si vous partagez ce rêve, il est crucial que vous me notiez 5 étoiles sur Apple Podcasts. Il est aussi crucial que vous parliez du MC Talks autour de vous, aux gens qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour vivre la vie qu'ils méritent. Encore merci et bonne écoute.
Parfois déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique et quelquefois étonnant.
Kevin, enfin moi je m'appelle Kevin, j'habite en Angleterre, je suis professionnel musicien et j'ai grandi en France et voilà quoi pour l'instant.
comment tu t'es retrouvé de la France à l'Angleterre? En plus, tu as même un accent anglophone. Ça fait longtemps que tu es là-bas? Ça fait combien de temps?
Ça fait du bien de parler français. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. J'ai peut-être pris un petit accent maintenant. Mais ma femme est néo-zélandaise.
Okay.
Du coup, je ne parle plus tellement français tous les jours. Du coup, ça se perd de plus en plus, on va dire. Sinon, oui, j'ai grandi, je suis né en France, je suis né dans un coin qui est pas très connu, je crois, c'est dans le 93, je suis né à Montfermeil, c'est dans le ghetto de... j'ai grandi, la plupart du temps, j'ai grandi en France, et puis je suis tombé amoureux de la musique et j'ai commencé à écrire des morceaux en français et ça n'a pas marché.
C'était quand ça?
Ça n'a pas du tout marché.
C'était quand que tu as commencé?
C'était dans les débuts 2000-2005, un truc comme ça.
Et tu avais quel âge? Parce que je ne sais pas l'âge que tu as. Tu étais jeune, non?
J'étais jeune, donc ma femme, elle est énervée tout le temps quand je parle de ça, mais j'ai un problème avec la notion du temps. J'étais au collège, j'ai eu un petit accident et du coup, notion du temps, c'est un peu flou, on va dire. Donc, je me rappelle plus trop quel âge. Je me rappelle des souvenirs, mais âge.
Et comment tu t'es retrouvé à écrire de la musique? Ça a été inné?
Parce que, en fait, j'adorais imiter tout ce que mon père, chaque dimanche, il met de la musique du monde entier. Et j'adorais imiter les chanteurs et les chanteuses.
Ok.
Et du coup, un soir, je rentrais de l'école et il y a une fille qui m'a dit, tiens, on recherche quelqu'un pour faire une comédie musicale sur Ray Charles. Je me suis dit, tiens, bon, vas-y, je vais le faire. Et le but, c'était simple, c'était d'imiter Ray Charles. Du coup, je me suis dit, tiens, ben, je sais le faire. Du coup, j'ai eu l'audition. Et à partir de là, je suis rentré dans le monde de la musique, j'ai rencontré des gens. Et puis, j'ai vu le batteur qui était dans la comédie, il avait un groupe de rock. Et je me suis dit, tiens, c'est mortel, un groupe de rock. J'aimerais bien faire ça. Et du coup, j'ai, J'ai acheté une guitare parce que mon père, ça c'est une longue histoire, mais j'ai cassé la guitare de mon père parce que je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Et du coup, j'ai dû racheter une guitare et j'ai écrit ce morceau-là. C'était Quotidien tragique. J'ai écrit ce morceau-là et je me suis dit, je suis allé dans la salle où il y avait tous les musiciens qui se regroupaient et je leur ai dit, tiens, j'ai envie d'inventer un groupe de rock. Je suis guitariste. Je n'étais pas encore. Et j'ai ce
Fake
morceau-là.
it
Ouais, fake.
until
Et du coup, ils ont fait, vas-y, j'écoute. Et ils ont aimé. Et du coup, ils ont dit, ah, vas-y, viens, on jam. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, désolé, je sais pas encore jouer de la guitare. J'ai
you
juste avancé ce morceau-là, quoi. Et ils ont fait, ah, oh, c'est super. Et puis, au fur et à mesure, enfin, j'ai créé un groupe et à partir de là, ça a commencé l'aventure en Angleterre aussi.
Mais tu dis que au début ça a été un échec total. Tu voulais dire quoi par là?
Oui, c'est vrai. Donc, j'ai commencé et j'ai tout de suite vu ce que j'inventais ne collait pas au genre musical.
Ouais.
Ouais. Je voulais, moi, ce que j'aime, c'est de faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est si tout le monde enfin, me donne une définition de qui je suis, c'est, oh, c'est la personne qui me fait sourire tout le temps et il est tout le temps joyeux, toujours en train de ramener les gens dans une fête et tout ça, la personne joyeuse, quoi.
Moi,
Et
on m'a présenté Kevin comme
et
ça. Hein. Julie m'a dit, tu verras,
ouais,
c'est
ah,
Kevin, il est
ben
super joyeux.
voilà.
Excuse-moi, je t'ai coupé.
Et du coup, non, c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit, tiens, comment je pourrais toucher un maximum de personnes avec ma musique? Et du coup, je me suis dit, tiens, ben, la langue, si ça aurait été la langue française, la langue numéro un dans le monde, je me serais vraiment focus sur ça. Mais bon, là, c'était l'anglais. Je me suis dit, tiens, le rock, ça colle bien, je chante du blues. Oh, ça va être un petit peu plus facile d'accéder au monde entier. Et j'ai mis le pied dans la langue anglaise et j'ai dû apprendre et en plus apprendre que à juste parler, c'est comme la langue française, il y a la poésie, tu dois connaître l'histoire de comment la langue a évolué et tout ça. Du coup, je me suis mis dans le bas, on a déménagé, enfin on a essayé en France, ça n'a pas marché, les gens n'arrivaient pas à se connecter à notre musique. C'était
OK.
pas, on est très, on a faim, on avait faim de jouer partout et du coup c'était pas suffisant pour nous la scène française. Et du coup on est parti en Angleterre, on est parti en Allemagne, on a fait plein de trucs et on a vu que parler à tout le monde, c'est l'anglais. Et du coup, à partir de là, on a déménagé en Angleterre et là, le rock and roll a commencé.
Mais donc
Ouais.
ça paraît tellement simple quand tu le racontes. T'avais pas des études à côté, t'étais pas à l'école. C'était après les études là, le moment où
Oui,
t'as
je
décidé.
suis.
C'était
Oui, mon père a toujours dit, tu fais les études. Du coup, j'ai eu mon diplôme. J'ai eu deux diplômes. J'ai eu un diplôme électronique. Et j'ai eu un diplôme comment on dit en français? C'est ingénieur de gestion. C'est en informatique de gestion.
Ok, donc tu avais quand même à
C'était
côté les
un
études.
BTS.
Donc tu avais
BTS.
le BTS et la
Oui, j'avais
musique
quand même à côté
en
les études.
parallèle.
En parallèle à ce moment-là. Donc là, c'était dans les années 2010, on va dire que
Ok.
j'ai à peu près tout fini, tout ça.
Et là, tu avais ton BTS, et c'est là où tu as décidé de te mettre à fond dans la musique, de pas travailler, de partir.
Et dès que... Exactement, voilà.
Ok.
J'ai travaillé 5 mois pour économiser, et puis après, j'ai dit
T'as
bye.
dit bye et rock'n'roll en Europe.
Ouais, on est parti en Angleterre. Ouais.
Pendant cette tournée en Europe, vous faisiez comment pour gagner de l'argent? C'est ce que je me dis. Il y a plein de gens qui rêvent de devenir un chanteur, artiste, mais ils vont
Alors,
dire, mais je vais jamais partir faire le tour de
dans la
l'Europe.
rue.
Dans la rue, ok.
On chantait dans la rue, dans les métros, et du coup, ça c'est comme ça qu'on réussissait à connaître des gens. Et tiens, vas-y, viens chanter dans ce bar. Et en même temps, on avait de l'argent parce que les gens mettaient dans le petit chapeau.
Ouais.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à porter un chapeau. C'est parce que il nous fallait quelque chose pour mettre l'argent dedans, pour les gens, pour mettre de l'argent. Du coup, je me suis dit, ah, mais ça sera mon chapeau, du coup. Et oui, c'est comme ça qu'on a réussi un peu à survivre. Le bassiste, on était trois. Donc, il y avait le bassiste, lui, il était cordonnier, donc du coup, c'était suffisant. Il pouvait faire ce métier, il pouvait faire ça dans n'importe quel pays. Donc, il a réussi à avoir un job. Moi, sorti du BTS, j'avais pas d'expérience. Du coup, c'était mieux d'être dans la musique que d'essayer de trouver un job. Et le batteur, c'était la même chose. Il
Okay.
n'avait pas de job. Il était le plus jeune d'entre nous, en plus.
Et à ce moment-là, tu étais complètement optimiste sur ton avenir dans la musique ou tu n'avais pas peur des fois de te dire, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de chanter dans la rue ou dans un métro dans toute l'Europe. Je sais
Ouais,
pas, il n'y a pas
c'était
un truc qui se passe dans ta tête?
c'est quand on a commencé en France, ça tout me revient de petit à petit. On a voulu faire enregistrer un CD, et du coup, on a eu ce producteur et il nous a dit que musicien, si tu veux faire ce métier-là, je te préviens, musicien est égal galéria. Et je me suis dit, tiens, ok, moi je suis pas quelqu'un qui abandonne facilement, du coup, on savait dans quoi on mettait les pieds.
Ok, mais t'avais quand même, donc t'avais pas peur en fait. Tu savais que c'était la galère et t'y croyais
Ouais.
dur comme fer. C'est quoi qui t'a, c'est vraiment une passion, c'est cette passion pour la musique qui t'a fait dire je
Ouais.
continue, je m'arrête
Le
pas.
qui me motive tellement, c'est quand je suis sur scène et qu'on finit de jouer ou juste un seul morceau, le sourire, la joie qu'on apporte aux gens, pour moi, c'est le meilleur métier du monde pour moi. À mes goûts, tout est réuni dans ça, quoi. J'arrive à m'exprimer, et les gens ressentent des émotions et ça leur apporte de la joie, plein d'émotions. Et c'est exactement ce que je pense que je suis né pour ça, quoi.
Okay.
Pour juste partager des émotions.
Et donc là, vous faites vos musiques un peu partout dans le monde. À quel moment? Il y a un moment où est-ce que tu t'es dit, peut-être je vais faire des auditions dans des plateaux français? Je crois que tu as tenté The Voice.
Pour arriver à ce moment-là, en fait, on est arrivé en Angleterre, on a commencé à galérer, et puis là, le groupe commence à s'effondrer.
Ok.
On commence à se chamailler entre nous. À ce moment-là, j'ai dû dormir dans la rue 3 jours parce que je voulais rester à Londres. Et c'est à partir du moment-là, on s'est chamaillé. Et puis, du coup, j'ai réussi à récupérer ma vie en main. Je suis resté. Et j'ai réussi après à rentrer en France et jouer dans le métro. C'est là que j'ai rencontré Julie.
On fait
Et
un bisou à Julie.
puis après, je suis reparti. Ouais, petit bisou. Et puis après, je suis reparti en Angleterre. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, tiens, je suis... C'est l'année où j'ai commencé à réfléchir aux auditions. Je me suis dit, The Voice en France. Je me suis dit, cette année, le synonyme de cette année sera être vu. Et du coup, je me suis dit, comment je pourrais être vu? J'ai envie de tenter, mais j'ai envie de tenter d'abord avec la langue natale. Du coup, Ils m'ont invité à faire cette audition en France. Et ils ont payé le billet pour le TGV pour venir et tout. Et
La classe. Mais
ouais, c'était cool.
ils t'ont trouvé comment? Comment ils ont fait? Bah tiens, il y a Kevin, il chante.
C'est un peu flou dans ma tête. J'ai pas envie de mentir. Du coup, je m'en rappelle plus
Ok.
trop. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a parlé de moi et ils ont dit tiens, on voudrait faire. Il y a l'audition, ça va bientôt se terminer. Voudrais-tu participer? Je me suis dit, tiens, ben, c'est cool. J'ai envie d'être un peu plus upgrade mon game. Du coup, je me suis dit, tiens, ben, je vais y aller. Et je l'ai fait. Et ça n'a pas du tout marché.
Un échec total.
Un échec total. C'était presque. Enfin, chaque expérience, c'est pas à gâcher. Mais c'était presque une journée où je me suis dit, tiens, j'ai gâché une journée de ma vie. À aller jusqu'à là-bas, attendre et avoir, tu sais, l'adrénaline, le
Ouais.
stress. Et j'arrive sur scène. Ils étaient là. Quand je chante, je sais pourquoi ils n'ont pas appuyé sur le bouton, mais quand je chante, j'essaie toujours de chanter pour que le morceau soit beau et pour qu'il y ait des émotions. Mais j'ai pas envie comment dire, de show, de me montrer.
Ouais. Toi,
De
c'était juste,
montrer,
je veux donner
ouais,
des
c'est
émotions,
ça.
j'ai pas envie d'être la star sur scène.
Ouais, voilà, tu sais, j'ai pas envie de faire ça. Alors que c'était You Somebody, ce morceau-là n'a pas besoin que je. Il est déjà assez puissant et il n'a pas besoin d'autres émotions que de faire des acrobaties au niveau de la voix. Et eux, ils attendaient la super note en haut et je leur ai pas donné, je leur ai donné de l'émotion. Mais je n'ai pas donné cette note-là qu'ils, tu sais, pour
Attendez.
l'émission pour qu'ils appuient sur le bouton. Et du coup, je suis ah, voilà, c'est
Merci.
fini.
Donc là, tu as dormi dans la rue à Londres. Tu as plus de groupe de musique. Tu vas à The Voice.
Ouais.
On te dit, bah, t'es pas assez
J'ai
bon
plus.
pour être pris à The Voice. Tu fais pas la note là-haut. Et là, tu continues à encore aimer la musique et tu continues à dire, je vais devenir chanteur. Et je vais vivre de ça toute ma vie. T'as encore ça dans la
Ben
tête.
oui, parce que c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que c'est mon métier. C'est pas parce que qu'il y a un échec qu'il faut arrêter. Si j'ai choisi, je me suis fait un tatouage sur mon bras. Je suis un peu noir pour que ça se voit dans la caméra, mais c'est marqué In life we make choices. Et c'est dans la vie, on fait des choix. Et si je fais ce choix d'être musicien, il faut que j'accepte les défauts de la musique aussi.
Et là,
Et
mais
il y
tu
en a
t'es quand même pas
beaucoup.
dit, t'es pas dit, je suis peut-être vraiment pas bon, je suis peut-être mauvais, je suis peut-être mauvais chanteur. Je t'ai pas dit ça?
Non, parce que j'ai toujours des doutes, mais quand je suis sur scène, tout le monde, c'est à peu près 90% de la salle
Est
aime
heureuse.
et vient et me dit félicitations. Du coup, ça me motive toujours à continuer, quoi.
Et après The Voice, tu décides de faire quoi?
Après The Voice, sorry, je vais couper le téléphone, voilà. Et après The Voice, je me suis dit, tiens, ben, je vais revenir en Angleterre. Ma vie est là-bas, je fais de la musique, je joue dans la rue, je joue dans les bars, et du coup, je voyageais de, chaque soir, j'avais envie de faire des open mic. Parce que c'est comme ça qu'on rencontre des gens, et puis c'est comme ça que j'ai des jobs.
Donc les
Et
open mics,
du
c'est
coup,
dans les bars, tu vas chanter, tu prends le micro et tu chantes, c'est ça? C'est quoi un open mic?
Il y a les concerts où je chante dans des bars. Et là,
Ouais.
ça peut être function band. Donc, je suis un one-man band. So, c'est juste guitare avec loop station. Et du coup, ça, c'est juste un function. Il y a aussi les concerts où les gens viennent pour l'artiste Kevin. Et puis, il y a open mic. Là, c'est un endroit tu n'es pas payé pour chanter, mais tu as droit à chanter trois morceaux sur scène et tous les musiciens se rencontrent pour chanter trois morceaux et puis se libérer. Tu sais, c'est très bien pour une première scène. Tu sais, quand tu inventes un nouveau morceau et que tu veux
Le tester.
le
Hein.
tester, bah, tu vas sur scène et tu testes là-bas. Et donc, c'est ça, un open mic. J'aime beaucoup ça. C'est comme ça qu'on rencontre des gens. Et je suis arrivé dans ce bar très, très chic, Soho Area, à Londres. Et je vais là-bas et je dis, tiens, je veux jouer pour l'open mic. Et je sais qu'il faut venir très tôt pour pouvoir être dans la liste, parce que c'est une liste assez réduite. Et donc, j'arrive là-bas, je me présente. Ils étaient en train de faire comment on appelle ça, le soundcheck, là où ils testent le micro, tout ça. Et la dame qui organise, elle s'appelle Nikki, elle arrive, elle me dit, tiens, l'ingénieur du son a dit que tu es là, que tu es prêt à chanter ce soir, mais ce soir c'est pas un open mic normal, c'est une compétition. Et j'ai dit, ben, inscrivez-moi à la compétition. Elle me dit, maintenant on est arrivé déjà à la quatrième phase de la compétition et il reste trois autres phases avant la finale. Je lui dis, mais c'est quoi cette compétition? C'est une compétition de chant, d'artistes, et ça s'appelle Artistry's Got Talent. Genre. J'ai dit, ben, s'il vous plaît, inscrivez-moi. J'ai toujours du mal à me présenter. J'ai pas envie de dire, ah, je chante bien.
Je suis super
Tu vois,
fort.
du coup. Du coup, je me suis dit, comment je pourrais rentrer dans cette... Il faut toujours forcer quand même un petit peu. Et je me suis dit, tiens, elle a fini toutes les soundchecks pour les autres artistes. Le micro était toujours on. Je monte sur scène pendant qu'elle se retourne, elle est en train de parler à tout le monde. Je monte sur scène, le sound-engineer coupe le micro. Je me suis dit... Je m'en fous, je vais quand même chanter. Et du coup, j'avais ma guitare avec moi. J'ai commencé à chanter ce morceau Men's World from James Brown. Tout le monde s'est tué dans la salle. Elle s'est retournée et chante enfin sans micro, mais chantait vraiment fort. Faut que voilà, montrer quelque chose. Elle s'est retournée et j'ai même pas chanter le refrain. Elle a dit stop, tu chantes ce soir. Du coup
Énorme.
j'étais inscrit dans ce truc-là. Elle a dû mentir en disant oui, celui-là il y a eu des problèmes dans les auditions. Et du coup, j'ai commencé à faire ce concours. J'ai réussi la première phase, enfin la troisième avant la fin. Et il y avait encore une autre soirée. J'ai réussi, j'ai gagné. Et chaque soir, en fait, il y avait un groupe de de 8 musiciens. Et il y avait toujours un seul gagnant chaque soir pour arriver à la finale des quatre, ou je sais plus combien il y avait. Et j'arrivais à gagner toutes les soirées. Je suis arrivé à la finale. Et la finale, il y avait Sunita. Sunita, elle était dans le jury. C'était la fille, la l'ex-femme de Simon Cowell
Ok.
de X
Ah,
Factor.
moi je suis très. Ouais, ok, c'est de X Factor. Je suis très mauvais, tu vas voir, avec les
Ouais.
stars de la musique.
Moi aussi, je la connaissais même pas. Je regarde pas la télé aussi, donc. Et j'étais le premier aussi à dire, oh, tu sais, X Factor, The Voice, c'est pas des trucs où les vrais musiciens font. J'étais le premier à cracher dessus, déjà. Mais les gens disaient, wow, il y a Sunita, c'est la fille de l'ex-femme de Simon Cowell. Et je dis, ok, cool. Et donc j'arrive, je fais mon audition. Enfin, c'était le dernier show, j'ai fait mon show. Et j'ai gagné ce concours de chant de Londres. Et en plus, il y avait le prix, c'était tu gagnes 3 000 pounds. Et du coup, j'étais content, j'ai gagné
C'est
3 000
cool.
pounds. Et là, il y a une Sanita qui sait, attends, j'ai quelque chose pour toi aussi. Et donc là, elle m'introduit sur une personne qui s'appelle, elle s'appelle Anna, et elle me dit, demain, c'est les dernières auditions pour X Factor UK. Et j'ai dit, non, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de faire la queue, ça va me gâcher une journée, j'ai
T'as
déjà eu
déjà fait The Voice,
l'expérience,
tu sais, ouais.
j'ai pas envie de le faire. Elle m'a envoyé plein d'emails le soir. Elle a dit, tiens, c'est mon numéro de téléphone si tu changes d'avis. J'ai dit, si je fais l'audition par email, j'ai dit, si je fais l'audition, je fais pas de queue. J'attends pas, tu m'appelles, enfin, il y a un rendez-vous et je fais l'audition. Elle m'a dit, OK. Du coup, c'est arrivé, j'ai pas fait de queue, je suis arrivé au temps pour faire l'audition. Et les producteurs, ils ont dit, OK, cool, on te met dans la version de la télé. Et à partir de ce moment-là, ben, l'aventure est partie fou jusqu'à la finale.
C'est un truc de malade. C'est un truc de malade parce que, premièrement, t'es apparemment très timide et t'arrives à chaque fois à te retrouver dans des situations où il ne faut pas être timide, mais tu t'en sors.
Ouais.
Et
Ben, je
ensuite,
ferme les yeux et je chante tout ça.
et ensuite tu t'arrives à la moitié, même vers la fin du concours, de la première compétition. X Factor, c'est le dernier jour et hop, t'es là au bon moment. Tu ne veux pas y aller et au final, tu y vas. Et là, donc, entre le moment où tu dis j'ai pas envie d'y aller, je vais quand même y aller parce que j'ai pas à faire la queue, c'est tranquille, je tente, et le moment où tu réussis l'audition et tu passes à la télé et il y a tout le processus, est-ce que tu as un changement de mentalité? Qu'est-ce que tu te dis? Tu dis waouh, c'est une opportunité incroyable, ou tu te dis toujours je vais pas aller jusqu'en finale? Qu'est-ce qui se passe, ouais, dans ta tête?
Ah oui, moi dans ma tête je me suis dit tiens c'est cool, ça va me faire un peu plus de
Ouais, le communicateur,
publicité,
hein, du site.
ça va me faire un peu plus publicité. J'ai réussi la première étape, mais je me suis jamais attendu à aller en finale. Et puis ce que je fais, je suis un étranger en Angleterre qui Il y a rien qui. Je
Il n'y a
suis
rien qui allait.
français. Il y a rien qui. Tout le monde va voter pour les gens de leur ville, tu vois. Je ne suis pas attendu à quoi que ce soit. Je fais du rock, du blues. C'est pas du tout ce que le genre de la télé X Factor veut. C'est plus un peu plus pop. Et à chaque fois, donc comment ça se passe quand on est dans X Factor, quand on arrive à faire toutes les étapes pour arriver au live, chaque lundi de la semaine, on est confronté à 11 personnes.
OK.
Et ces 11 personnes professionnelles de la musique disent, tiens, cette semaine, le thème, c'est ça. J'ai cette idée pour ce son-là, pour ce je pense que tu devrais chanter ce morceau-là. Et 11 personnes, à peu près 11 di différentes idées pour moi de chanter. Et Moi, mon principe, c'est toujours d'essayer les morceaux de qui me disent. Et à la fin, je dis, bon, ben, j'ai essayé tous vos morceaux, mais je préfère mon choix. Et ils peuvent pas dire vraiment non, parce que j'ai essayé au moins tout. Et quand je chante mon truc, eh ben, c'est le truc où je ressens le plus. Et ils aiment aussi. Du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à rester. À garder mon identité. Et je me rappelle toujours la deuxième semaine, parce que la première semaine, j'ai chanté sans guitare. Je me suis dit, tout le monde va attendre que Kevin, il a fait déjà toutes ses auditions avec les guitares, et tout le monde va, il va être boring, la personne va être ennuyante. Et du coup, je me suis dit, ah, je vais juste chanter, je vais juste
Avec la
chanter,
voix.
juste avec la voix et je vais même faire la note que The Voice attendait. Et du coup, je l'ai faite et là, tout le monde... et je me suis dit, tiens, ils ont accroché. Ben là, je vais leur montrer qui je suis personnellement. Et donc, c'était la deuxième semaine, c'était latine. Et je me suis dit, tiens, je vais pas changer. Je sais pas, j'aime le cubain, tout ça, mais chanter, je vais pas chanter en espagnol. Qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, j'ai eu ce morceau Santana et j'ai dit, je vais jouer live. Il faut que je joue live Santana, c'est un des gods de la guitare. Et je me suis dit, tiens, en live et tout. Et la production dit, non, en X Factor live, tu dois mimer. Mimer, on dit. Quand
Tu
tu
dois, ah, tu
chantes,
dois pas, y a un playback pour la guitare.
voilà, c'est tu
Ah,
mimes
tu
la
fais
guitare.
semblant, mais en fait, tu fais pas vraiment de la guitare.
Voilà, semblant.
Ah.
Voilà. Et je dis, c'est blasphème. Jamais, jamais de la vie. Je suis musicien professionnel. Jamais de la vie, je vais jouer, je vais mimer quelque chose. Ça va même me perturber. Il faut que je joue. Et du coup, ils ont dit, ok. Ils ont fait un rendez-vous avec Simon. Et ils ont dit, joue 4 fois le morceau sans une seule erreur. Et
Là, t'auras le
peut-être
droit.
qu'on va te laisser jouer live. Et j'ai joué une seule fois. J'ai joué avec des solos et tout. Ils ont dit, ouais, ok, c'est cool. Tu peux le faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu m'exprimer en tant que Kevin Davey White pour la totalité, quoi, du parcours.
T'es quand même sacrément audacieux, hein. Tu dis que t'es timide, mais dans tout ton parcours, dans tout ce que tu me dis, il y a beaucoup, beaucoup d'audace. Genre. Tu dis quand même à la
Ouais,
production d'X Factor, on parle d'un mastodonte de la musique, et toi, t'arrives,
ah
c'est
ouais.
non, mais moi, je veux pas votre
Mais
production, pas ma musique, ça.
ma mère m'a toujours dit, peu importe ton chemin, n'oublie jamais d'où tu viens. Et
Ah, et là, tu prouves, là.
ma mère m'a toujours dit, les gens, c'est ça va être, mon père m'a toujours dit, désolé, que ça va être difficile dans la vie de s'affirmer et d'être accepté en tant que la couleur de peau et tout ça. Et du coup, il faut que tu travailles un peu plus que les autres, juste pour être bien dans la société et reste le plus poli possible. Et du coup, c'est naturel, c'est pas un effort. Je suis joyeux, je travaille beaucoup et j'essaye toujours de forcer la chance parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Et voilà.
Ouais, parce que tu sais, il y a de la
Ouais.
chance dans le parcours, mais la chance, là, tu l'as clairement attirée. C'est pas tombé sur toi comme ça, c'est que t'es allé la chercher.
Non. Ouais.
Et donc, tu fais ces lives avec The Voice, et il y a un moment, il y a Nicole qui intervient. Alors, je connaissais pas du tout cette Nicole. C'est la chanteuse. Je sens que les gens qui écoutent vont me tuer. Mais donc, explique-nous un peu qui tu rencontres là-bas, parce que j'arrive même, je sais même pas son nom de famille. J'ai lu, mais m'en rappeler.
Nicole Scherzinger.
Voilà, qui est très connue. Toi,
Très
bah,
connu.
j'imagine que tu la connaissais. T'es pas un peu impressionné quand tu te
Ouais, je
retrouves
la
avec elle?
connaissais. Ah ouais, j'étais vraiment impressionné. Et j'étais encore même plus impressionné de la simplicité de la personne. Elle n'a pas changé humainement. Ça reste une personne
Comme toi et moi.
totalement. Les pieds sur terre Et elle m'appelle mon frère, j'appelle ma sœur. C'est vraiment, on a eu une très très belle relation dans ce truc-là. Et de temps en temps, enfin, on a toujours, j'ai quand même le numéro de téléphone de
Wow.
Nicole Scherzinger. On peut s'envoyer des messages en disant, mais ça reste des messages bonne année. Tu sais,
Ouais, un message
c'est
cool.
pas ma pote, c'est juste des messages bonne année, tout ça, quoi.
Et elle, c'était ta coach, c'est ça? C'est à X Factor, t'y a une...
C'était
c'est...
ma coach dans X-Factor.
Et elle t'a... Tu penses
Et c'est
que...
elle qui m'a bien boosté.
Et là, tu fais donc tous les... Tu vas jusqu'à la finale, ouais. Tu vas quand même jusqu'à la finale de X Factor UK. T'as un peu de stress, un peu de pression à ce moment-là?
Et je suis, ben, tout juste une anecdote. On n'a pas eu de jour de repos et la veille, j'ai fait un petit malaise. Du coup, j'ai pas réussi à faire la répétition et je suis parti à l'hôpital et du coup, j'ai dû apprendre sur le tas le matin les morceaux et du coup, j'ai fait le show sans répétition. C'était un one shot, one opportunity. Et sur scène, il devait avoir des flammes, des pyrotechniques, mais tout a été annulé parce que j'ai pas pu répéter. Et du coup, le dernier show, ça devait être vraiment un truc de fou où tu dois en mettre plein la vue au public. Et du coup, j'ai pas réussi à mettre à donner cette je pouvais pas compéter compete
Ouais, tu pouvais pas être en compétition avec les autres, c'est
avec les deux autres parce que ils avaient tout, les lights, le feu, ils avaient même des duos avec des artistes super connus. Moi, j'ai eu un artiste connu, Tokyo Myers, mais il ne chante pas. Du coup, il n'y avait pas cette connexion. Il y avait plus la connexion musicale que 20% de X Factor du public peuvent vraiment, tu sais, et le reste est vraiment, oh, it has to be like a bah,
ouais. Ouais,
explosion.
en plus, t'étais pas préparé, t'étais à l'hôpital avant de faire la finale.
Ouais, du coup, mais j'ai donné quand même mon maximum. C'était pas une excuse. J'ai quand même donné mon maximum et c'était Hold All Our Love, Led Zeppelin.
Ça, je connais ça, ça c'est bon, ça.
Et du coup, c'est. J'espère que tu connais. Et du coup, j'ai quand même mis le feu, les gens aimaient, mais c'était pas suffisant.
Et là, donc, mais c'est quand même une réussite. J'imagine que tu l'as vu comme une réussite, X Factor. Même si tu as perdu cette finale,
Oui,
tu as quand même gagné en exposition. Ça t'a servi pour après? J'ai vu que tu as signé pour un
ça m'a
label, il me
beaucoup
semble.
servi pour après.
Ouais, il s'est passé quoi après X Factor?
Donc, tout juste après, il y a eu plein de contrats qui sont arrivés. Et ces contrats-là, c'était tu chantes ce que l'on te donne. Et du coup, j'ai dû dire non à tout. J'ai presque même fait une dépression parce que c'était beaucoup d'argent. Je disais, tiens, finalement, j'arrive à avoir tous les contrats que je veux, mais je dis non. Parce que j'ai toujours cette voix dans la tête où ma mère elle me dit, n'oublie pas d'où tu viens, reste qui tu es, c'est important. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, pendant combien de temps je vais être ce Kevin X Factor, mais pas le Kevin normal, quoi. Et ça, c'est ça qui m'a tenu jusqu'à maintenant et faut pas que ça change.
Mais c'est quoi? C'est des maisons de production qui te contactent, qui disent faut que tu chantes ça et on te file de l'argent en échange? Ouais.
Pour musique de c'était
Okay.
label plus one j'ai pas le droit de le nommer
Ouais.
mais il y avait un gros quoi
Un gros qui t'a proposé de chanter. En fait, c'est y a la musique est toute faite. T'as juste à mettre ta voix dessus? Ok. Tout simplement.
Easy job. Et tu as beaucoup d'argent.
Et il y a aussi un truc que je me demande. Donc, avant X Factor, j'imagine que tu n'étais pas trop célèbre. Après X Factor,
non.
Au UK, tu es devenu Kevin, quoi. C'était Kevin
yeah.
X Factor,
ouais.
une star, je sais pas si on peut dire ça, mais quelqu'un, une célébrité en tout cas.
Connu, ouais,
enfin, une personne connue.
Connu.
Dans ta tête, t'as pas commencé, même s'il y avait toujours la voix de ta mère de reste qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens, t'as pas quand même un peu eu un l'ego qui a pris de la place et tu t'es dit, je sais pas, j'ai pas envie de perdre ça.
Je suis très bien entouré. J'ai ma femme maintenant. Elle était toujours avec moi. Elle m'a toujours soutenu. C'était facile. J'ai pas eu de doute à un moment où j'ai pas eu un. Non, ça pas.
J'adore tes parallèles parce que ouais, j'ai l'impression que
j'étais juste
tout
content.
Arrive, tout flotte. Tu es là. Tu veux faire ta musique.
Voilà.
Et que tu vas pas me prendre la tête.
Ben, c'est important. Sinon, je sais pas comment tu es dans ta vie. Tu as envie d'être content.
Ah ouais, hein, c'est clair. Non, mais c'est clair, mais je me dis, imagine, je sais pas, moi, mes podcasts là que je fais, d'un coup, ça passe, il y a 100 000 écoutes par jour, je reçois un contrat d'une radio ou je ne sais quoi, dans ma tête, je vais exploser, je sais pas, je me dirais...
Ah ouais,
incroyable.
T'es content.
Je sais pas ce que je vais faire dans cette situation, même si ils veulent juste ma voix. Enfin bref, c'est pour ça que t'écouter, je trouve que c'est exceptionnel. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont le courage, je sais même pas si moi, j'aurais ce courage de rester moi-même face à tant d'argent, face à la célébrité, face à autant de personnes importantes autour de moi, tu vois. Je trouve ça magnifique.
Tout dépend de ce que tu veux. Tout dépend de ce que tu veux, quoi.
Yeah. Ouais. C'est beau. Et donc, là, tu refuses les maisons de prod, mais tu signes quand même dans un label.
Yeah.
Là, c'est donc ce label Light. Comment ça s'est passé?
Donc, j'ai pas signé tout de suite avec un label. J'ai juste créé une équipe, donc manager, avocat, super important, tout ça. Et du coup, j'ai créé ma petite équipe et je me suis créé mon propre label. Et c'est comme ça que j'ai pu continuer à faire de la musique, à gagner un peu plus d'argent parce que du coup c'était Kevin, voilà. Et après j'ai fait ce festival en Italie et il y a un manager en Italie qui est tombé amoureux. C'était un festival de blues, j'étais le headline de ce festival et tout le monde a kiffé. Celui-là, il est venu, ce manager, il a dit: Je veux te signer. Je suis manager, producteur. J'ai un label. C'est pas un label super fou, mais j'ai de l'argent et j'ai envie d'investir sur toi. Et tu as les clés en main et tu fais. On va faire ensemble tout le possible pour faire un bon parcours. C'est exactement ce que je cherche.
Tu pouvais faire ta musique, t'avais le soutien financier, logistique d'un label, mais à côté de ça, tu pouvais faire ta propre musique. Et là, c'est quoi? Tu travailles sur des nouvelles musiques. C'est quoi les plans
du
là?
Du coup, là, je suis en train de travailler sur mon premier album. Et tous les soirs, j'écris des morceaux. Là, pour l'instant, j'en ai 22 nouveaux morceaux. Et j'écris.
Alors là, c'est intéressant, tu dis que t'écris des morceaux. Je me suis toujours demandé comment on fait pour écrire une musique. Parce que des fois, tu sais, t'as l'impression j'ai l'impression que d'abord, ils ont fait le rythme de la musique et après, les paroles. Parce que, genre, par exemple, tu connais Papa Outé de Stromae. Ça m'a toujours... J'ai toujours cette
musique. Oui.
Quand tu lis les paroles, juste quand tu lis les paroles, tu dis, c'est pas possible que quelqu'un ait écrit Papa Outé. Comment ça s'est passé dans la tête de la personne qui a écrit? Donc Stromae, je pense, c'est lui qui l'a écrit. Comment ça s'est passé? Comment on fait pour écrire une musique?
En tant que musicien, je pense que c'est vrai qu'on peut pas écrire Papa Outé comme ça. Je pense qu'il a dû inventer. En tant que musicien, à mon avis, il a dû s'amuser sur l'ordinateur et créer la musique. Et puis, en tant que musicien, il y a des quand t'entends, quand tu inventes un truc, ben tu t'entends à peu près comment le son va être, tout ça. Et du coup, t'entends des mélodies qui arrivent Et c'est pour ça que j'ai toujours le téléphone à côté, parce que s'il y a une mélodie qui arrive, faut enregistrer, sinon tu oublies, et puis c'est super important. Et du coup, à mon avis, il a dû avoir oh, j'aimerais bien chanter non non non, et puis il a dû, avec la mélodie, prendre des écrire des paroles en fonction de ce qu'il a entendu en tant que mélodie,
Et toi, tu
etc.
fais comment alors? Tu écris d'abord ou d'abord tu as la mélodie et après tu trouves les paroles?
Donc, la seule chose que j'écris, c'est les paroles, parce que j'ai pas eu cette chance d'apprendre la musique. Du coup, je suis autodidacte avec la guitare, la basse, la batterie, le piano. Et c'est difficile d'ailleurs avec les musiciens de parler, parce que ils me disent, ouais, on joue ce morceau-là en ré ou en. Je dis, joue une fois
Et on va
et
voir.
c'est sûr que je vais le retenir. Mais si tu me dis, si tu me parles, sorry. J'ai un téléphone qui.
Te parle.
Je savais même pas qu'il y a quelqu'un qui me parle. Le téléphone me dit, what?
Siri, elle est.
Oh, parce que je parlais en français, ouais.
Tu dois pas comprendre, Siri, elle est Kevin.
Ouais, donc du coup, je parle en français maintenant. Du coup, ouais, j'écris le. J'invente des. Je prends la guitare, je m'entraîne tous les jours, et je fais, oh, tiens, ça, c'est cool. Et j'enregistre. Et puis après, je me dis, tiens, il faudrait que je chante dessus. J'essaie de trouver une mélodie. Et puis après, je m'assis.
Je m'assis, ouais.
Comment?
Je m'assis, ouais.
Je m'assis
Je
dans. Je
m'assois, ouais.
m'assis.
Oula, même
Je
moi, je suis perdu.
m'assois. Je
Moi
crois que
aussi,
c'est
à
ma.
force de
Je
vivre à
m'assois.
Montréal. Je parle trop anglais, enfin, je suis OK.
Ouais, j'imagine. Donc,
Je rigole.
je m'assois et puis j'écris ce que je ressens sur le moment. Si j'ai envie de passer un message j'arrive même à écrire quand je suis pas inspiré, parce que j'écris pourquoi je suis pas inspiré. Et du coup, l'inspiration, elle
Oui,
vient.
c'est une bonne technique. Et donc, ouais, donc d'abord, donc toi, t'écris les musiques et après, tu fais la musique qui va, enfin, t'écris les paroles et après, tu fais le rythme qui va par-dessus. Si j'ai bien
Non,
compris.
d'abord le rythme,
Le
la
rythme, après,
guitare
t'écris les
d'abord,
paroles et après, tu
ou le
places l'un sur
piano,
l'autre.
et après je fais la mélodie, ils sont du bla 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 bla, et après là j'écris les paroles.
OK. Et ouais, donc tu disais
Les
l'inspiration,
paroles
elle
pour moi,
t'arrive.
c'est toujours en dernier.
Pardon, dis-moi.
Je disais que les paroles, c'est toujours en dernier.
Ok, les paroles sont en dernier. Et tu dis que tu as finalement toujours de l'inspiration, mais quand tu travailles tous les soirs pendant des heures et des heures, il n'y a pas un moment où tu n'arrives plus à écrire? Ça te bloque. Et t'as pas peur non plus de
Oh,
te dire, si j'arrive pas à écrire, j'ai pas mon album, c'est pas un petit stress là, la pression de la créativité?
Oh, j'adore ça, j'adore la pression. Mais sinon, et c'est un truc qui est super. Ça devrait être le meilleur ami de tous les musiciens et toutes les personnes qui créent. Pas que dans la musique, ça peut être les personnes qui. Je trouve que même un artiste qui fait de. J'appelle un artiste même les personnes qui coupent les cheveux. Tous ceux qui créent des choses, qui moldent. Je trouve que c'est super important d'avoir. Ça doit être le meilleur ami, un deadline. Deadline, une date où tu as la pression qu'il faut que ce soit à ce moment-là. C'est comme ça que tu travailles, parce que un morceau, j'ai rencontré Ed Sheeran et il me l'a même dit, la même chose que ce que je pense. Quand tu écris un morceau et tu l'as fini, il y a pas de limite. C'est toi qui dis stop. Mais tu peux toujours écrire quelque chose, tu peux toujours modifier quelque chose, et c'est le deadline qui te dit, j'ai fait le maximum, et bien maintenant il faut passer à un autre morceau.
Ok. Et je trouve ça incroyable aussi parce que moi j'essaye d'écrire des fois, tu vois. Et il y a des moments où je reste 4 heures face à une feuille. Moi c'est pas des musiques, hein, j'écris des textes sur mon podcast par rapport à plein de choses. Et y a des moments où je suis 4 heures face à la feuille, mais déjà, j'ai rien. En plus, s'il fait pas nuit et si j'ai pas une bougie allumée à côté de moi, j'ai beaucoup de difficultés à me concentrer. Donc, il faut tout un environnement bien. Toi, ça a été le moment. Est-ce que tu as aussi un cadre précis dans lequel tu dois écrire pour que ça soit plus facile à sortir?
C'est vrai que il y a des moments dans la journée, quoi. Et moi, je suis quelqu'un qui c'est le soir, c'est le soir.
Et c'est ça, le soir. Tu sais, quand on est dans la nuit, c'est sombre. T'as l'impression que t'es
toi,
beaucoup plus concentré.
Il n'y a pas d'interruption.
Ouais.
Exactement.
et là, aujourd'hui, donc, t'écris ton album. Il y a aussi, on en parlait avant qu'on lance le podcast, on en parlait en off de la Covid-19 qui est quand même un gros problème pour les artistes, j'imagine. Comment toi, tu vis ça? Donc, c'est un bon moment, j'imagine, aussi pour écrire ton album.
Exactement.
Mais en même temps, c'est un moment difficile pour le business. Comment toi, tu le vis?
C'est un moment vraiment, vraiment difficile, surtout que dans la plupart des pays du monde, un musicien n'est pas trop aidé déjà dans la société. Il est un peu en dehors de la société. Du coup, là, il n'y a pas vraiment d'aide pour être musicien. Et il faut bien... quand j'étais musicien, j'avais un certain salaire. Et du coup, il faut... Bah, pour le rattraper, j'ai dû faire. Je me suis dit, tiens, comment je vais faire? Et ben, il y a que ce job-là qui est en front line. Donc du coup, je suis en front line. Plus j'ai de l'argent, je dis c'est cool. Pour moi, j'aide la société.
Okay.
Et du coup, Amazon cherchait quelqu'un et j'ai cliqué pour ce job-là. Et du coup, je délivre des colis pour le Amazon. Du coup, c'est cool parce que je fais toujours plaisir aux gens. et c'est self-employed. Du coup, je peux rentrer chez moi et je peux toujours travailler. Je peux toujours manager mon emploi du temps. Donc, c'est cool.
C'est vraiment ton fil rouge, faire plaisir aux gens. Tu dis que même chez Amazon, tu livres des colis, donc les gens sont contents. Et tu fais...
Ouais, tout le monde est... Oh, I'm coming. Oh, thank you. C'est super.
J'ai une question concernant ton nom, donc Kevin Davey White. Est-ce que c'est ton vrai nom? Et si ce n'est pas ton vrai nom, d'où ça sort?
D'accord. Du coup, Kevin Davey, c'est mon vrai prénom. C'est, Kevin et Davey, c'est dans ma pièce d'identité. J'ai plus de pièce d'identité, j'ai un passeport, mais c'est sur ma,
ma
pièce d'identité. Et j'ai un nom de famille, j'avais pas pris parce que j'avais envie de protéger, on va dire, au maximum ma famille. Mais bon, tout se sait avec Internet de toute façon. Donc, mon vrai nom de famille, c'est Gnani. C'est Gnanih. Et c'est un peu difficile, on va dire, pour être mainstream, on va dire. Et je me suis dit, tiens, comment je vais prendre un truc qui va être facile de retenir. Et en France, j'ai grandi dans ce ghetto-là, c'était Clichy-sous-Bois, avant de déménager à Goussainville un peu plus. Et Clichy-sous-Bois, c'était le ghetto. Et donc, la majorité, c'était des étrangers. Et j'étais l'une des seules personnes dans cette j'étais la minorité de personnes qui écoutaient des morceaux on va dire européens, du rock, des morceaux qui sortent du lot de ce que ghetto écoute. Et je généralise, hein, mais rien n'est bien de généraliser, mais voilà, on m'a appelé le Baptou, Kevin le Baptou, parce que j'écoutais la musique des Blancs. J'écoute juste de la musique, hein. Mais pour eux, c'était j'écoutais la musique des Blancs.
T'écoutais pas la même musique. Hein.
Voilà. Alors que c'est de la musique. Et du coup, je me suis dit, tiens, ben, je vais justement utiliser ça, Kevin White, voilà.
Wow, ok.
Tout simplement.
En fait, c'est un message presque que tu leur envoies en disant, regardez, je m'appelle David White. Voilà. Ok. Et il y a deux questions que je pose toujours en fin de conversation. La première, c'est quel conseil tu donnerais au Kevin, lycéen en France, qui découvre la musique, qui découvre la guitare de son père? Quel conseil tu lui donnerais?
Ça va être dur, mais accroche-toi et tu seras content.
Et enfin, c'est quoi les trois valeurs de Kevin? C'est quoi les trois valeurs? Il y a faire plaisir aux autres et faire plaisir à, enfin, faire plaisir au monde. Mais quelles sont
La
les trois
première,
valeurs?
c'est le respect. Après, c'est se faire plaisir et ne jamais oublier qui tu es.
Super. Merci beaucoup, Kevin. Merci pour cette heure
Merci
passée ensemble.
beaucoup.
Cet épisode était trop cool. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à l'écouter. Partagez-le à vos proches, aux personnes qui cherchent de l'audace. Ça pourrait les aider et ça fait aussi grandir le projet du MC Talks. Je voulais faire une petite surprise à la fin pour annoncer que j'ai écrit un petit guide de 15 pages. Un guide pour trouver ce que vous aimez dans la vie, pour vous redonner le sourire sans forcément changer de job ou aller partir vivre à Bali. Il suffit pour ça de s'inscrire sur mon site mc-pulse.fr, mc-pulse.fr. Le lien est dans la description de l'épisode, c'est tout en bas. Je vous laisse maintenant découvrir Aton de l'album Elements de Kevin Davey White. A bientôt! Everything you need, we can find around here. Sick to my free, let the feathers grow. Then we will see, from above the clouds here, behind the mountains, out of smoke. Oh, you gotta let that go, you gotta let that go. You gotta let that go. There are some things you can't atone. You gotta let that go. You gotta let that go.